Des questions plein la tête. Toutes les réponses aux questions que vous ne vous êtes jamais posées.
Ah bon ?
Peut-on soigner avec l'effet placebo ? Épisode 6.
Est-ce qu'on m'aurait jeté un tort ?
Bienvenue dans Des questions plein la tête sur Radio Campus Grenoble 90.8. Dans cette émission, on ne trouve pas toujours de réponses, mais on découvre toujours de nouvelles questions. Alors que je venais de démarrer cette série sur le placebo, je tombe par hasard sur un entretien avec Richard Monvoisin. Il était l'invité de l'émission La Dernière, enregistrée à Grenoble.
On peut mourir d'effet nocebo.
Ah oui, quand même.
Non, ça c'est flippant. On peut mourir d'effet nocebo, mais on ne peut pas guérir d'effet placebo.
Mais c'est quoi ce nocebo dont on pourrait mourir ? Avec Nisrine, on n'a pas pu résister à l'envie de lui poser directement la question. Et il nous a fait rencontrer son collègue Léo Druard, lui aussi chercheur à Grenoble.
Je m'appelle Léo, je suis kinésithérapeute de formation et je suis chercheur sur le placebo depuis un peu moins de 10 ans. J'ai fait ma thèse de science là-dessus et maintenant je suis chercheur à l'université de Brown aux États-Unis où je travaille sur l'effet placebo spécifiquement et je suis chercheur associé à l'université d'Uppsala.
Et donc tu travailles sur le placebo et je crois que dans tes recherches tu t'es particulièrement intéressé aussi au nocebo.
En fait, quand on étudie le placebo, du coup, on se retrouve aussi à étudier le nocebo. La recherche sur le placebo, elle est nouvelle sur l'échelle de ce que c'est la science. L'effet nocebo, c'est encore vraiment beaucoup moins étudié que l'effet placebo. Placebo, on connaît tous le mot. Nocebo, la plupart du temps, c'est pas encore ce que c'est ce mot-là, quoi.
Est-ce que, pour commencer, tu peux définir ce que c'est que l'effet nocebo ?
L'effet nocebo, c'est vraiment le pendant obscur de l'effet placebo. Là où l'effet placebo, c'est un effet positif lié à un contexte, l'effet nocebo, lui, c'est un effet négatif lié au contexte. En fait, dans le quotidien, c'est mélangé, parce que dans le quotidien, on ne reçoit pas seulement une suggestion, on ne reçoit pas un truc qui est comparé à un autre. Je reçois des suggestions qui sont et positives et négatives. Et du coup, petit à petit, mes attentes, toute ma conception de ce que je peux attendre du traitement, elle va être modulée et un peu positivement et un peu négativement. Et placebo et nocebo, ils s'entremêlent pour faire un truc qui est l'effet du contexte, quoi. Donc au final, ils ont une définition très similaire, mais ils ont des voies physiologiques qui sont différentes. Il y a des substrats chimiques qui sont sécrétés dans le cerveau et qui vont faire qu'il y a plein de choses dans notre chimie interne qui changent. Il y a des études très amusantes qui montrent que les médicaments génériques, souvent, ont une efficacité moins importante que les médicaments quand on les commercialise. Et ce qui n'a pas beaucoup de sens pharmacologiquement, parce qu'en fait, c'est la même molécule. Ça veut dire que la perte d'efficacité, elle est liée au fait que les gens, ils sachent qu'ils sont dans un générique. Et ça, c'est par exemple, je trouve un exemple d'effet nocebo ou placebo, je ne sais pas trop, mais en tout cas, un effet du contexte qui fait que selon comment on le présente, on perd un peu d'efficacité parce que les gens se disent un générique, c'est forcément moins bien, c'est pas la marque premium ou quoi. Alors qu'en fait, c'est vraiment littéralement pareil. Un exemple très quotidien de l'effet nocebo, un exemple tout bête, mais celui-là, peut-être qu'on l'a tous déjà vécu. C'est le jour, mon colocataire qui mange un yaourt. Puis en fait, à un moment, il dit mais ça fait longtemps qu'il est dans le frigo ce yaourt, non ? Puis tu dis bah oui, on regarde la date. Je fais, oh merde, il est périmé en fait. Et tout de suite, oh, j'ai un peu mal au bide du coup. Mais le yaourt, il est encore au milieu de l'œsophage, il n'est pas du tout encore d'être digéré, il n'y a rien qui peut se passer dans le corps. C'est qu'au moment en fait où on va donner une information de contexte qui dit qu'il y a quelque chose de potentiellement négatif, tout de suite le symptôme commence à se faire ressentir. C'est le système nerveux central qui a déclenché quelque chose de négatif à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui veut dire que les gens sont en train de simuler ou sont en train d'exagérer. C'est tout à fait et physique et physiologique. C'est normal. On est tous sujets à l'effet placebo comme nocebo. En fait, le corps, il a plein de mécanismes pour se réguler. Toutes les choses qu'on vit dans notre corps sont régulées par le système nerveux central. Et donc, du coup, le système nerveux central, il a des mécanismes pour nous faire plus ressentir la douleur, moins ressentir la douleur, plus générer de l'inflammation, moins générer de l'inflammation. Et en fait, toutes ces voies-là, qui sont régulées par le système nerveux central, peuvent être du coup sujettes à un effet placebo ou nocebo. Donc, placebo, ça va être le déclenchement de la sorte de pharmacie interne qu'on a dans le cerveau qui va du coup réduire la douleur. Et pour le nocebo, c'est toutes ces voies qui sont là pour augmenter la douleur. C'est le même mécanisme de fond, mais ça emprunte des molécules différentes et des voies physiologiques différentes. Et là, je dis douleur parce que c'est le phénomène qui est le plus étudié. Tous les processus qui sont régulés par le système nerveux central peuvent être des potentielles cibles d'effets placebo ou nocebo. C'est-à-dire que, de la même manière que le placebo peut agir sur la motricité, peut agir sur, à certains moments même, la régulation de l'immunité, ça peut agir sur la douleur, ça peut agir sur l'anxiété, la fatigue, toutes ces choses-là, l'effet nocebo peut agir sur ces mêmes phénomènes.
Mais est-ce qu'il y a quand même des limites à ce que le nocebo peut provoquer chez nous ?
Il y a plein de choses que l'effet placebo ne peut pas faire. Par exemple, un effet placebo, ça ne répare pas un os fracturé. Ça ne va pas traiter une infection. Un contraceptif placebo, très mauvaise idée. Ça n'agira pas du tout sur là où c'est censé agir. Et en fait, le nocebo, du coup, on peut y apposer un peu les mêmes limites. Je ne pense pas que le nocebo puisse créer des cellules malades ou des tumeurs ou ne va pas fracturer un os ou un truc comme ça. C'est qu'un truc de régulation du système nerveux central.
Et est-ce que c'est vrai que le nocebo est plus puissant que le placebo ?
Alors oui, il est plus puissant. Donc quand on regarde les méta-analyses, donc les méta-analyses, en gros, c'est des agrégats d'études. Et quand on regarde les méta-analyses sur le placebo et qu'on les compare aux méta-analyses sur le nocebo et qu'on regarde la force de leur effet, on voit que l'effet nocebo, il a une plus grande force d'effet que l'effet placebo. Ça peut être dû à deux choses, en partie. La première chose, c'est peut-être que oui, il est plus fort que l'effet placebo. Mais ça peut aussi être dû au fait qu'il y ait moins d'études. Et que du coup, l'estimation qu'on a de l'effet placebo est peut-être plus précise que celle sur l'effet nocebo. Ceci dit, l'hypothèse plus probable, c'est quand même qu'il est plus fort que l'effet nocebo, parce qu'il y a d'autres éléments qui nous poussent dans cette direction, comme par exemple le fait qu'un effet nocebo, il s'estompe après très longtemps. Un effet placebo, il y a des études qui ont montré par exemple qu'au bout de 14 répétitions, donc quand on associe un traitement à une suggestion positive et après je donne un placebo, j'ai créé un placebo, mais au bout de 14 associations, au bout d'un moment, l'effet placebo il s'estompe dans le temps. Et il faut renouveler l'association entre le traitement et le placebo pour que du coup le conditionnement opère à nouveau et que du coup on puisse recommencer avec l'effet placebo. L'effet nocebo il s'estompe quasi pas.
Alors est-ce que c'est vrai qu'on peut en mourir ?
Je connais pas de cas où quelqu'un soit mort d'un effet nocebo. Il y a un cas un peu emblématique qui avait fait l'objet d'une publication de quelqu'un qui était dans une étude pour des antidépresseurs. Et puis donc cette personne s'était donc traitée pour une dépression. Et à un moment, la personne appelle un service d'urgence en disant « Écoutez, là, j'ai besoin d'être hospitalisé, j'ai fait une tentative de suicide. » La personne se retrouve hospitalisée d'urgence, ils cherchent ce qui se passe, ils font un lavage gastrique, ils essaient de vider, ils essaient de purger le système. Mais la personne ne s'améliore pas, donc là, ils ne comprennent pas très bien. Puis ils disent, mais qu'est-ce que vous avez pris ? Ils disent, j'ai pris mes antidépresseurs, j'ai pris toute la bouteille, quoi. Et au service d'urgence, ils galèrent un petit peu à faire. Et donc, du coup, ils disent, c'était des antidépresseurs expérimentaux. Donc, on va appeler, puisqu'en fait, on n'identifie pas quelle est la molécule là, qui est en train de gérer l'empoisonnement. Donc, on va appeler les gens de l'étude en urgence en disant, là, il y a quelqu'un qui prend votre traitement et qui en a trop pris, quoi. Ils appellent du coup le groupe de l'étude, nous c'est ça la molécule, voilà les informations que vous avez besoin, on va regarder et on fait quelque chose qui n'est pas habituel en science, on va retirer l'insu parce que du coup on va faire en sorte que les chercheurs sachent dans quel groupe cette personne est pour qu'on puisse dire exactement ce qu'il a pris, quel lot de médicaments c'était, etc. etc. Et en fait ils regardent puis ils disent il est dans le groupe placebo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de molécule active dans ce traitement-là. Et donc cette personne en fait avait pris trop de pilules placebo et en fait s'en était généré un effet nocebo tel qu'il s'était retrouvé aux urgences avec dans l'article il dit ça pronostic vital en jeu etc. Et puis donc du coup ils l'ont annoncé aux patients en disant écoutez en fait vous avez pris des traitements qui étaient il n'y avait pas de molécules donc tout va bien de notre point de vue du point de vue chimique tout va bien et en fait la personne s'était progressivement après améliorée et sa tentative de suicide, du coup, n'avait pas abouti à une mort. Ça, c'est le cas peut-être le plus extrême qui a été documenté sur l'effet nocebo.
Et alors, qu'est-ce qui provoque un effet nocebo ?
La recette pour faire un effet nocebo, je ne sais pas si ce n'est pas classifié comme information, parce que c'est dangereux. Mais non, en fait, alors, pour faire un nocebo, il faut qu'il y ait un élément de contexte négatif. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans ce que les gens perçoivent, avant de recevoir une intervention, mais ça peut être un traitement, ça peut être plein de choses, qui dit que quelque chose de négatif va se produire. Et donc ça peut passer par énormément de choses. Ça peut passer par, je vais aller à une consultation parce que j'ai de l'arthrose, et puis mon médecin va me dire, oh là, vous avez un genou de quelqu'un de 80 ans alors que j'en ai 30. Puis je vais dire, c'est pas cool, c'est dommage, c'est très, très grave ça, dis donc. Puis après, je dis, ok, très bien, il faudrait peut-être aller voir un kiné. Du coup, je vais voir le kiné qui me dit, de toute façon, on attend juste la prothèse. Encore un truc négatif. Et en fait, toutes ces informations-là, par exemple, elles peuvent déclencher du coup, des attentes négatives chez les gens. Il y a une étude où ils avaient pris des gens qui avaient été opérés de leur prostate. Et en fait, ils avaient un traitement qui s'appelle la finastéride, qui est là pour limiter le grossissement de la prostate, si je me souviens bien. Et puis, les deux groupes étaient randomisés. Ça veut dire qu'ils étaient attribués aléatoirement à deux conditions. Une condition qui pouvait être de dire, on ne va pas vous dire que l'effet secondaire potentiel du médicament, c'est l'impuissance. Et l'autre groupe, on vous le dira, parce que juste on vous informe de cet effet secondaire-là. L'étude a montré que du coup, dans un premier groupe à qui on avait annoncé qu'il y avait des effets secondaires, il était à 44% environ de gens qui déclaraient ces effets secondaires, et dans le second groupe, ils étaient à 15%. Alors, il y a des limites dans le sens où il y a des gens qui pouvaient dire « j'ai de l'impuissance, mais j'ose pas le dire parce que je savais pas que c'était possible ». Mais ce qui était intéressant là-dedans, c'est que bon, c'est une manière juste très simple d'expliquer comment le fait d'annoncer qu'il y a des effets secondaires à un traitement peut augmenter la chance de les voir survenir. Et ça, ça pose des questions éthiques dramatiques, parce que à la fois, on va être tiraillé entre le fait que il faut informer les gens quand même, avant qu'ils prennent un traitement, de dire là, en fait, dans ce traitement, vous pouvez vous attendre à ça, 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 ça et ça comme effet négatif, pour que chacun et chacune, on puisse décider du coup de la balance bénéfice-risque du traitement. Mais le problème, c'est que du coup, tout d'un coup, si on annonce aux gens tous les effets secondaires qu'il y a dans les traitements, potentiellement, on augmente leur probabilité de survenue. Et ça, éthiquement, ça a posé plein de questions, parce que du coup, comment on fait un consentement éclairé si derrière, on est en train de faire du dommage à la personne en l'éclairant de cette information-là.
Est-ce que nos maladies deviennent transmissibles par les mots? Est-ce que, à force de parler de ce que je ressens, est-ce que je risque de le faire vivre aux autres autour de moi?
Je pense que oui. Alors, il y a pas mal de fois où on parle des situations de panique collective. Je crois qu'il y avait eu ça il y a 2 ans, là, avec les puces de lit à Paris. En fait, c'était pas une épidémie qui se retrouvait vraiment, quoi. Mais par contre, à force de dire, on a des démangeaisons quand on va se coucher ou quand on se réveille, il y a des gens, beaucoup, beaucoup de gens qui s'étaient sentis avoir ça. On peut reprendre par exemple la vaccination pour le Covid, où en effet, les gens avaient beaucoup, beaucoup médiatisé des effets secondaires, et alors il y en avait, mais il y a aussi beaucoup qui ont été surmédiatisés. Il y avait une étude qui était sortie où ils avaient regardé tous les effets secondaires dans les groupes de vaccination placebo. Et ils ont dit, en fait, il y en avait énormément dans ces groupes-là qui n'avaient rien dans le vaccin en lui-même. Et donc du coup, je dirais que oui, on pourrait dire que le fait d'ajouter de l'attention sur des symptômes risque d'augmenter leur survenue chez d'autres gens. Mais les mots, c'est aussi un remède. Il faut juste choisir de quoi on parle, peut-être.
Et comment est-ce qu'on pourrait, ou est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place pour éviter cet effet nocebo?
C'est pas évident de répondre. Finalement, c'est aussi, ça dépend des gens. Dans l'éthique médicale, en général, on considère qu'il y a 4 grands principes. Il y a le principe de bénéficence, c'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est faire du bien aux gens. Ça, c'est un des principes super importants. Il y a le principe de non-malfaisance, qui est dire que ce qu'on veut faire, c'est on veut pas faire de mal. Ces deux-là, ils vont ensemble dans ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Ensuite, il y a le principe de justice, qui est de dire l'objectif, c'est aussi que les gens aient accès aux ressources de santé de manière équitable. Et dernièrement, il y a le principe d'autonomie, qui est de dire qu'on veut respecter l'autonomie décisionnelle de la personne dans la mesure de l'autonomie qu'elle peut avoir. Ça, c'est les 4 grands principes. Et dans l'idée de est-ce qu'on informe les gens sur les effets secondaires liés à des traitements, eh bien, en fait, on est en train de peser l'autonomie des gens et le principe de non-malfaisance, qui est du fait que je ne veux pas faire de mal. Et donc, je ne veux pas les informer d'un potentiel effet secondaire parce que j'augmente le risque qu'il arrive. Après, du coup, là, il y a un choix à faire. Lequel, on pense, est plus important que l'autre. Et donc, des stratégies que les gens ont eues pour, ou ont proposées pour contourner ce truc, parce que souvent, quand on a des dilemmes éthiques, soit on dit clairement, l'autonomie, c'est plus important que telle autre chose, ou la non-malfaisance est plus importante que l'autonomie. Soit on essaie de contourner un peu la situation. Des trucs pour contourner un peu, il y avait, par exemple, l'idée de dire... On peut informer, faire une sorte de mensonge consenti, quoi. Où on dit, y a des effets secondaires à ce traitement. Si je vous informe de ces effets secondaires, nous augmentons la probabilité que ces effets secondaires se produisent. Est-ce que vous voulez être au courant des effets secondaires? Puis après, du coup, si vous me dites, oui, moi je veux quand même savoir. Il y a des effets secondaires qui peuvent arriver d'un point de vue dermatologique, cardiovasculaire, de sensations corporelles, sur lesquelles souhaitez-vous être informé? Et puis du coup, on pouvait progresser comme ça, en fait, dans l'information. Et puis il y a des gens qui pouvaient dire, je préfère pas savoir. Et puis du coup, on dirait, à l'inverse, si vous ressentez quoi que ce soit après la prise de ce traitement, n'hésitez pas à m'en parler, je vous dirai si c'est un effet secondaire attendu ou pas. Et si c'est pas attendu, on essaiera de trouver ce que c'est. Et si c'est attendu, je vous dirai, vous pouvez vous être rassuré, c'est quelque chose qui est normal avec le médicament. Peut-être une voie d'avenir pour la recherche sur le placebo et le nocebo après, mais c'est de regarder dans quelle mesure aussi ces choses-là sont personnalisables.
Pour être pertinent par rapport à cette conversation d'effets secondaires avec le patient,
Florian, pharmacien à Grenoble.
Il est souvent utile de connaître déjà le patient à l'avance. Qu'on essaye d'être fin psychologue pour l'annonce des effets secondaires, soit on va l'informer pour la sécurité du patient, soit on préférera ne pas prévenir les effets secondaires. Il y a des effets secondaires qui sont parfois très fréquents sur des médicaments, mais il vaut mieux ne pas informer tout de suite le patient, car il risquerait de voir apparaître cet effet secondaire par effet nocebo. Mais le pharmacien devra montrer qu'il sera très à l'écoute de son patient pour que le patient puisse rapporter un effet secondaire, quel qu'il soit.
Les études très intéressantes sont en train d'être faites, notamment, je crois, en Allemagne, où, par exemple, ils avaient testé d'ajouter dans toutes les fascicules de médicaments qui disent, tous les effets secondaires, vous allez avoir, ils ajoutaient un petit fascicule sur l'effet nocebo. C'était un peu, je sais pas, comme un trigger warning nocebo, quoi. Mais en gros, dire si vous lisez plus dans les effets secondaires, potentiellement, vous augmentez la chance qu'ils arrivent. Mais vous pouvez lire, juste sachez que ça ne veut pas dire que ça va se produire. Une autre initiative qui était très intéressante, je trouve, c'était celle d'exprimer les probabilités, non pas de survenue d'un effet secondaire, mais que ça ne survienne pas. Et ça, par exemple, pareil, ça diminuait, ça rassurait les gens. Un des trucs qu'on aimerait investiguer, c'est quand on regarde les stratégies pour prévenir l'effet nocebo, il y a aussi la stratégie d'éduquer les gens au nocebo, informer les gens à ce que c'est, comment ça marche. Et surtout que les gens repartent avec l'idée de dire ce que moi j'attends d'un traitement peut influencer mon état de santé. Pour ma part, par exemple, moi, ça me soulage de savoir ça. Parce que ça veut aussi dire que des fois, je peux ressentir des choses qui ne sont pas graves non plus. Parce que c'est peut-être lié à un contexte qui est peut-être aussi passager. Un symptôme très intense n'est pas forcément un indicateur de gravité. Donner ces informations, ça participe, à mon sens, à ce que les gens, du coup, puissent plus s'approprier leurs informations de santé. Pour le moment, les résultats préliminaires semblent indiquer que ça peut diminuer l'effet nocebo après, voire le prévenir. À chaque fois, l'objectif quand même de ces recherches, c'est de se dire que si on donne aux gens l'information et qu'on les laisse être acteurs dans leurs soins et dans leur santé, et bien en fait, ça peut que mieux se passer. Parce qu'en fait, du coup, on améliore l'effet placebo, on diminue le nocebo, et l'angle placebo-nocebo, ça c'est une partie des effets. Après, il y a des effets éthiques aussi, il y a des effets sur l'engagement dans le soin, il y a le fait que aussi, juste, on respecte vachement plus l'autonomie des gens. Ça permet aux gens ensuite de s'approprier mieux leur santé et donc d'être après en meilleure santé. Mais on ne sait pas encore comment il faut les informer bien, quelle est la meilleure manière d'informer, c'est quoi les informations essentielles à donner pour à la fois pas aggraver les choses et à la fois, voilà. Donc ça fait partie des choses à tester, mais à chaque fois qu'on pose une question comme ça, là, on rajoute 5 années de travail à des chercheurs et des chercheuses. Donc je pense que les questions, on les pose plus vite qu'on va les résoudre, mais petit à petit, on est persuadé qu'on va trouver. Puis je pense qu'il y a quand même certains trucs qu'on peut déjà affirmer, qui est que quand on parle d'effet nocebo, je pense qu'il faut le faire de manière non dramatique aussi. D'expliquer que selon comment vous attendez à un symptôme, vous allez pouvoir le ressentir plus ou moins. Normalement, ça ne devrait pas être trop inquiétant. On est en train de faire un livre qui va être édité par la maison d'édition Les Arènes pour parler un peu de ce dont on a tout parlé là. Et en fait, l'objectif du bouquin, c'est de se dire un peu, si informer les gens, c'est important, il faut le faire plus largement possible. Et puis, ce serait chouette d'avoir un bouquin que tu peux prescrire aux gens. En fait, c'est un bouquin qui vous fera du bien.
De ce que tu as dit tout à l'heure, moi, ça m'a quand même donné envie de te demander des conseils sur nous, parce que justement, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on doit dire, comment on doit le dire, pour pas provoquer plus d'effets nocebo. Donc voilà, si tu as des recommandations un peu sur...
Nous, on a peur que notre émission déclenche des épidémies.
Mais vous avez fait 5 épisodes sur le placebo et 1 sur le nocebo. Du coup, on peut dire qu'en termes de dosage, à moins que j'ai été 5 fois plus anxiogène que les collègues...
On l'a annoncé par une annonce de film d'horreur.
Ça dépend si j'ai fait plus peur que votre bande-annonce ou moins peur que votre bande-annonce. Par exemple, suite à notre conversation, vous vous sentez plus inquiète sur l'effet nocebo maintenant ou moins?
Moins,
ouais.
En fait, je pense pas que ce soit inquiétant, forcément, de savoir plus sur comment ça marche. Donc, à mon avis, vous allez plus faire de bien que de mal. Mais... il n'y a plus qu'à évaluer.
Tu écouteras l'émission et tu nous diras si on peut prescrire aussi notre émission ou pas aux patients.
Carrément. Une émission de radio qu'on peut prescrire, c'est bien ça.
Merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions et à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la prescrire autour de vous. Rendez-vous prochainement sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour une nouvelle série d'émissions avec plein d'autres questions. Et en attendant...
est-ce que je te demande si ton père aime les poireaux ?
Des questions plein la tête, une série à réécouter en podcast sur Radio Campus Grenoble à la page de l'émission.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you. Stop the on you.